émission, l'écran radiophonique, vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Il lui prend le bras. Il lui a mis son costume marine, mais il lui en a pas fait réflexion. Les femmes ne pensent qu'à leur toilette. Ils partent à pied, les rues sont désertes. Arrivé à la rue Bref, il est surpris. Elle est toute petite, étroite, triste, avec des immeubles épreux. Vous êtes sûr que c'est là? Oui. Dans une rue aussi laide? Oui, mais il ne faut pas s'y fier. Quelquefois à l'intérieur. Les appartements sont de vrais petits bijoux. Ah, voilà, le numéro 19. L'immeuble est de 2 étages, le preux presque délabré. Vous êtes vraiment sûr que c'est là? On n'entend pas de musique. Elle hausse ses épaules et dit. C'est bien le 19. Elle met la main sur la porte de l'allée qui s'ouvre. Elle n'était pas fermée. Ils entrent. Appuie sur la minuterie. Une lampe au plafonnier éclaire. Il n'y a plus que les emplacements pour les boîtes aux lettres. Ça sent le moisi. Il y a des ordures sur le sol. Frédéric dit, c'est abandonné. Nous partons? Non, puisque nous sommes là. Allons voir. Il monte les escaliers. Arrivée au premier, elle regarde. Des noms sur les portes. Ah, voilà, c'est ici. Elle va sonner. Attends, puis voit que la porte est ouverte. Elle la pousse.
Nous entrons, ce doit être une farce.
Ils entrent, elle demande.
Y a quelqu'un ?
Pas de réponse. Suivent un couloir. Ouvre une porte. La pièce est vide, sale, abandonnée. Elle va ouvrir une autre porte. Frédéric a le frisson et dit
« L'on s'en va ?»
Elle lui dit
« Je crois que c'est une farce. »
Et il s'en retourne. Arrivé devant la porte d'entrée, ils voient qu'elle est fermée à clé. Ils essayent de l'ouvrir. Rien à faire. Elle se met à crier.
Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez !
Pas de réponse. Elle aussi se met à crier.
Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez !
Et essaye de pousser la porte avec son épaule. Rien à faire.
Qui a fermé cette porte ?
Demande-t-il.
Je ne sais pas.
Et il tourne en rond et dit
« Tâchons de voir s'il n'y a pas une autre sortie. »
Ils paniquent tous les deux.
Ils courent dans tous les sens dans l'appartement qui est immense. Ouvre des portes.
Les portes mènent dans d'autres pièces. C'est un appartement en enfilade. Ouvre aussi des placards. Ils ont chaud et commencent à avoir peur. Elle dit,
c'est un prisonnier. Si je n'avais pas le vertige, je m'en serrais par la fenêtre. Faites-le, vous.
Mais je ne peux pas.
Cherchons encore,
dit Frédéric. Il va ouvrir une porte. Il voit dans un placard un noble, grand, maigre, avec un manteau, le visage émacié, qui les regarde. L'homme tombe à terre. Il voit qu'il a un couteau dans le dos. Ils ont tout juste eu le temps de se reculer pour éviter qu'il ne tombe sur elle. Elle panique, prend peur. Il la maintient et éloigne du cadavre. Ils reprennent des enfilades de pièces vides et sales, seulement éclairées par des fentes et des persiennes. Il la maintient. Il tape à toutes les portes. Enfin, une qui s'ouvre. Elle donne dans l'allée. Il quitte l'allée. Le quartier en courant. Après un quart d'heure de course, tous deux épuisés, il la fait asseoir sur un banc. Elle lui dit
« On nous veut du mal.
Pourquoi ?»
demande-t-il. Parce qu'il faut quelqu'un pour endosser tous les crimes qui se font dans la ville.
Il reste un moment sans parler. Elle lui dit «
Je suis pas pour mon père. Je dois vous quitter. »
Elle se lève,
lui aussi. Je vous accompagne. Il la suit d'un bon pas. Elle court presque et lui demande. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur pour votre père? Parce qu'ils savent qu'ils sont sur le point d'apprendre quelque chose de capital sur la vie. Quelque chose qui doit rester secret. Son arrivée devant chez elle, elle lui dit au revoir et elle le quitte. Son allée, il retrouve sa logeuse dans les escaliers en chemise de nuit. Il ne faut pas rentrer aussi tard, monsieur Frédéric. J'ai besoin de sommeil, moi. Elle le regarde de la tête aux pieds et lui dit. Vous êtes sale. Où avez-vous passé la soirée? Elle sourit. Il lui dit. Vous savez peut-être mieux que moi. Mais il la dépasse pour monter chez lui. Réveillé par des bruits bizarres qui proviennent de derrière la porte condamnée. Il se lève pour aller voir. Il essaie de voir par le trou de la serrure, mais il ne voit que du trou noir. Il en a assez de ce bruit, et pour faire arrêter, il tape et crie. Arrêtez! Arrêtez! Touchez au grafuge! Arrêtez! 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 Respiration. C'est effrayant. C'est effrayant. Ses forces alourdissent, s'amenuisent. Il doit aller s'allonger.
sort d'un coup d'un sommeil noir. Puis la neige et les taches de sang. À la sortie de l'université, il barre le passage une Rolls noire. Un chauffeur sort de la voiture. L'écran, un peu fort, blond, sans âge, quitte sa casquette et dit « Monsieur, ma maîtresse désire vous parler. » « Qui est votre maîtresse ?»« Elle vous le dira elle-même. » Il hésite. Le chauffeur lui dit « Il le faut, monsieur. » et ouvre la porte de la voiture. Frédéric se dit, qui sait, peut-être aurais-je la solution de tout cela. Et il s'engouffre dans la voiture. La voiture file et va sur les hauteurs de la ville. C'est le quartier résidentiel de la ville. Le chauffeur longe une petite avenue, puis va s'arrêter devant une demeure du 18e siècle, sombre mais noble. Il ouvre la portière à Frédéric qui sort. Un majordome le conduit dans la maison. Et va ouvrir une porte. Pour le faire entrer dans un grand salon Louis XV. Les meubles sont très beaux, mais les couleurs des tentures, dessus de chaises, tapisseries sont passées. On dirait que c'est un décor noir et blanc coloré avec des couleurs pâles, passées ou délavées. Les meubles sont très beaux aussi. À peine entré, une femme est entrée par une autre porte en face. Elle est grande, mince, très belle, les cheveux noirs en chignon, habillée d'une robe d'intérieur longue rose. Frédéric la trouve très belle, mais sa pâleur la rend irréelle. « Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. » Elle lui montre une chaise. Il va s'y asseoir. Thank you. Elle va s'asseoir sur le canapé en face de lui.
Je vous ai fait chercher, c'est pour savoir pourquoi vous avez tué Philippe Mailleux.
Il est surpris. J'ai tué personne, madame. Il ne connaît pas cette personne.
Il était mon frère.
Frédéric panique un peu. Je ne l'ai pas tué.
Mais qui d'autre alors?
Je ne sais pas. Il panique. Elle reste calme, comme si c'était une chose anodine.
Ce n'est pas vous. Vous devez le trouver.
Comment, madame?
En me disant ce que vous faites ici.
Mais madame, c'est votre chauffeur qui m'a... Elle met la main sur son front et dit...
Pardonnez-moi, j'ai perdu la tête. Je vous crois, mais les étrangers sont très mal vus dans cette ville. Si quelque chose ne va pas, c'est de leur faute.
Elle de plus en plus pâle et dit...
Partez, nous reverrons plus tard.
Ils se lèvent tous deux. Elle lui dit
« Mon chauffeur vous ramènera chez vous. »
Elle le quitte en prenant le même chemin qu'elle était, d'où elle était venue. Il sort du salon. Le chauffeur est derrière la porte, il l'attendait. Arrivé chez lui, il trouve la porte de la pièce ouverte, voit quatre pattes, avec une serpillière, un seau à côté d'elle, sa logeuse qui nettoie le sol. Il voit que l'eau du seau est rouge. Il lui dit « Que faites-vous? Que s'est-il passé ?» Elle lève la tête et lui dit en haussant les épaules « Que si vous ne le saviez pas ?» Non, je ne le sais pas. Elle se relève péniblement. Met la serpillière dans le seau et se dirige vers la sortie. Voilà, c'est propre. Et elle sort de la pièce. Frédéric aimerait s'en aller. Il en a assez de cette ville, de ce logement. De toute façon, rien ne le retient ici. Il peut étudier ailleurs, dans un autre pays, dans une autre ville, n'importe où. Mais pourquoi ne part-il pas? Pourquoi reste-t-il ici? Ne peut-il pas partir? Ne veut-il pas partir? Il ne sait plus. Il ne sait pas. Madame Mailleux lui téléphone.
Je vous téléphone, si vous prévenir, vous êtes en danger. On vous veut du mal, beaucoup de mal.
Mais qui, madame?
Tous, ils sont tous complices. Vous devez venir chez moi. Mon chauffeur vous attend à votre porte. Je vous supplie d'accepter. Sortez tout de suite de chez vous.
Bien, merci madame, j'arrive. De chez lui, dehors il trouve la voiture avec le chauffeur. arrivée, la femme le reçoit à son salon. Me voici, madame. Je vous remercie de m'héberger et de me protéger, mais pouvez-vous m'en dire plus ?
Non, monsieur. Ce serait trop compliqué. Il se fait tard. Vous voyez, je suis déjà toute pâle. Désirez-vous manger ?
Non, j'ai déjà dîné, madame. Merci.
Bien, je vais vous montrer votre chambre.
Et il la suit. Ils sont sortis du salon, suivent un couloir, montent un grand escalier de pierre. Au premier, ils suivent encore un couloir. Elle va ouvrir une porte.
C'est votre chambre.
Elle est claire. Ils entrent. C'est une grande pièce meublée luxueuse, blanc et rose.
J'espère qu'elle vous plaît.
Oui, elle est très belle.
Un peu passé, n'est-ce pas ?
Je n'osais pas vous le dire, mais pourquoi est-ce que tout semble passé dans cette ville ?
Parce que nous sommes peut-être passés. Bonne nuit.
Bonne nuit, madame. Frédéric est venu sans rien. Il se déshabille. Il se couche en slip. Il s'endort profondément, un sommeil de plomb, noir. Réveillé par le froid. Le froid. Dans son demi-sommeil, il essaye de se couvrir de la couverture. De la couverture. Voit avec surprise le ciel étoilé. Et voit qu'il est habillé autour de lui. Voit qu'il est couché sur le pavé. Dehors, un paquet. Et près de lui, il tend le bras. Ça le retourne. Il voit le visage d'un homme mort. La tête grimaçante. Les yeux fixes. Apeuré, il se lève et voit qu'il est sur la berge du fleuve. Regarde l'homme mort, enroulé dans son manteau, un couteau dans le dos.
J'en ai assez! Je n'y comprends rien! Rien! Rien!
Et il se met à courir, 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 courir.
se réveille en sueur dans la chambre de la villa. Il est couché sur le lit avec ses habits. Il se lève. Il n'y comprend rien. Prend son mouchoir pour s'essuyer la sueur au visage et voit que ses mains sont en sang. Il voit que ses vêtements sont tachés de sang et de boue. Mon Dieu, que s'est-il passé? Il regarde autour de lui et se sauve en courant. Il veut quitter la villa. Arrivé dans son allée, il trouve sa logeuse dans les escaliers. Elle le regarde de la tête aux pieds et lui dit
« Encore vous? Et dans quel état? Mais que faites-vous donc? Je vous prenais pour quelqu'un de sérieux. »
Il hausse les épaules et entre chez lui. Elle lui crie derrière la porte
« Ça finira mal tout ça !»
L'après-midi après l'université, il rencontre sur le chemin de retour Iphigénie.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, dit-elle.
Je vous prends un café?
Oui, je veux bien. Et ils vont au même café que leur première rencontre. Ils ont choisi un coin tranquille, commandent deux cafés, elle lui dit.
Le locataire qui était avant vous,
elle en savait trop, c'est pour cela qu'on l'a tué.
Faites attention à vous.
Mais pourquoi?
Il ne faut pas chercher.
Il ne faut pas chercher.
C'est facile à dire. Comment pouvez-vous ne pas y penser à tout instant quand il vous arrive quelque chose d'étrange et d'horrible?
Comment ça va?
Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps.
Je venais juste m'acheter des skis.
Vous êtes avec
vous? Et c'est peut-être à l'intérieur de vous qui se passe le plus de choses. Tout ce qui vous arrive est peut-être dû à ce que vous avez en vous. Comment cela?
On était justement
vous mélangez avec peut-être Simone. Vision et réalité.
Simone Chou.
Et je suis conscient. Pas besoin d'être inconscient ou fou. Il suffit d'alchimie. Je vous en prie, ne mettez pas la tête en feu avec tout ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce que pour moi, ce ne serait que des fantômes, ce qui m'arrive, alors que pour les autres, ce qui est arrivé à la locataire qui m'a précédé alors. Ne me mettez pas en colère. Il m'arrive, pour maîtriser tout ça, de chercher des solutions les plus absurdes. Je vous répète ce que vous ai dit au début. Ne recherchez pas à savoir, sinon il vous arrivera la même chose qu'à elle.
Que j'ai rencontré à l'hôpital.
Bon, je tâcherai d'oublier.
Après avoir bu leur café, elle se lève et lui dit « Je dois partir. J'ai affaire. Je vous accompagne. Si vous voulez. »
Je l'ai pas lu. Moi non plus.
suis pas très intéressé par Théophile Gautier. Elle l'avait laissé là un soir. Regardez-le, s'il vous plaît.
Dans son lit, la nuit, il pense à la locataire. Regarde sa photo, la trouve très belle, se demande ce qu'elle a pu trouver sur la ville. Puis, il s'endort. Il rêve que la jeune fille lui apparaît, s'approche de son lit, lui sourit. Il a envie de la prendre dans ses bras, de la coucher, de la déshabiller. Il veut lui faire l'amour, mais tandis que lui s'excite, elle reste de marbre. Il ne s'occupe plus de ses études, ses pensées sont ailleurs. Il passe des journées dans sa chambre à se demander « Pourquoi tous ces meurtres autour de moi et tout ce sang sur moi ?» Il marche dans les rues au hasard, voit que les gens le regardent drôlement et l'évite. Il laisse un espace autour de lui. Un jour, il se regarde dans la glace et voit qu'il est comme les gens de la ville, pâle, sans couleur. Il s'est fondu dans le paysage. Il est réveillé par du bruit que l'on fait derrière la porte condamnée. Un bruit très fort, sourd. Il en a assez. Il aimerait qu'on le laisse tranquille. Il se lève d'un bond, va vers la porte et essaye par des coups d'ouvrir cette porte.
sert de faire cesser ce bruit. Coup d'épaule, coup de poing, rien n'y fait. Et le bruit est toujours là. Et vois que vient de derrière la porte une flaque de sang. Il court prendre une serpillière et un seau de sous l'évier. Et éponge le sang. Mais plus il éponge, plus il y a du sang. Cela énerve, l'excite surtout. Que de bruit, toujours de bruit, toujours. Cela pendant un long moment, puis épuisé, il s'évanouit à terre. Il s'évanouit à terre. Réveille la pièce pleine de lumière, voit le seau de sa pilla à côté de lui, le sang séché sur le sol. Dans la nuit, il est réveillé par un bruit imperceptible et voir qu'on se penche vers lui une ombre pour chercher à l'étouffer avec un oreiller. Il se défend comme il peut. Mais celui qui l'attaque est plus fort. Voit l'oreiller descendre. Il s'évanouit. Se réveille, se trouve dans la Rolls. La voiture roule, roule, c'est la nuit. La femme de la villa est à côté de lui. Elle lui dit :
vous vous souvenez de moi ? Je suis Moïva.
Il a de la peine à reprendre ses esprits. Où suis-je ?
Dans ma voiture. Vous êtes mort.
Il s'évanouit. Il s'évanouit. Il revient à lui, couché dans sa chambre, et voit penché sur lui Moïva qui lui dit :
vous êtes mort.
Non, je ne suis pas mort.
Mais si. Ne soyez pas stupide.
Un homme habillé de noir avec des gants blancs s'approche de lui et lui demande :
il est mort ?
Elle lui répond :
oui.
L'homme se penche sur Frédéric qui ne peut réagir, lui tire hors du lit, le maintient sous le bras, ouvre la porte condamnée, entre avec Frédéric. C'est moi, c'est noir. Et il le pousse dans un trou. Au fond de son trou noir, il entend sa logeuse. Respecté.
On ne sait jamais où il est. Il est toujours pareil. C'est toujours pareil avec lui. Regardez. Toutes ces saletés.
Il essaye de se lever. et tombe à terre, essoufflé, reprend conscience. Voit penché sur lui Moïva qui lui sourit.
Vous n'êtes pas mort ?
Elle rit. Réveille allongé dans le caniveau, courbaturé, et se lève pour rentrer chez lui.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Jugnet de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.